Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure.
Nous sommes avec Joseph Facal. Joseph, je sais que tu veux me parler de l'effondrement de la CAQ, mais je veux revenir à la conversation que je trouvais intéressante, ce que tu me disais mardi dernier sur l'hypersensibilité des gens. Tu sais, on a inventé le terme de micro-agression. Tu sais, le micro-agression, ça veut dire une affaire qui t'arrive dans la vie, qui est désagréable, qui est plate, mais là, on ne peut pas dire que c'est une agression parce que ça serait trop exagéré. Donc, on dit que c'est une micro-agression. Alors que ça n'en est pas. C'est pas une agression. Ça arrive dans la vie qu'on a des obstacles, on se sent mal, on a bon. Mais là, tout le monde a des traumas. Hein? Tout le monde a des traumatismes. Et j'aurais le goût, moi, de dire à certains woke, « Get over it. Get over it. » Tourne la page, regarde, retrousse tes manches, puis get over it. À un moment donné, je comprends qu'il y a des vraies agressions, il y a des vrais traumatismes, il y a des vraies tragédies. Mais tu sais, arrête de te gratter le bobo là, en disant « moi, je suis bien. » Puis tu sais, je veux dire, come on. Snap out of it, comme disait Cher à Nicolas Cage dans Moonstruck. Snap out of it.
Non, t'as raison. La micro-agression, c'est le nom supposément distingué, sérieux, savant qu'on veut donner à l'hyper susceptibilité et à l'ultra sensibilité. J'ai comme l'impression que à ce compte-là, ma blonde et moi, on doit se micro agresser 37 fois par jour. c'est rendu que dans certaines assemblées étudiantes dans le monde universitaire, je crois que c'est toi-même qui faisais référence, il y a une personne qui est désignée au départ comme le, je cite, gardien du suivi.
Alors, c'est le président. Gardien du senti.
Alors, t'as le président, la présidente d'assemblée, le ou la secrétaire qui rédige le procès-verbal, et cette espèce de néo curé du ressenti auquel tu peux t'adresser quand t'as pas aimé le regard de quelqu'un sur toi puis que ça t'a provoqué de la grosse pépine. Mais de l'autre côté, Richard, de l'autre côté, toute la société conforte les nouvelles générations dans cette idée que c'est correct de se draper pour une victime, dans le rôle de la victime, et même, d'une certaine façon, il peut y avoir des primes, des programmes, des promotions, toutes sortes de bénéfices liés au rôle de la victime. Tu sais, je sais pas si t'as vu en ce moment, en Espagne, c'est toi-même qui disais que le wokisme est en train d'imploser sous le poids de ses contradictions et du fou rire qu'il suscite. T'as vu, en Espagne, pays qui... Tu sais comment j'aime l'Espagne.
Mais
je dois admettre que l'Espagne, parfois, fait une rude concurrence au Canada dans ce désir d'être politiquement correct.
Ah oui?
Et là, évidemment... Oui. Il n'y a pas que la tauromachie. Il y a une aile super woke également en Espagne. Et là, évidemment, dans l'armée espagnole, on a consenti des primes et des accommodements pseudo-raisonnable aux soldats qui se déclarent femmes. Alors, c'est rendu maintenant une trentaine de soldats réguliers de l'armée espagnole qui se déclarent femmes. Alors, évidemment, dans les médias espagnols, tu as des photos de Antonio, Roberto, Sergio, Fernando, qui sont des costauds à barbe, mais qui, pour aller chercher le petit supplément, se déclarent maintenant femmes. Et l'Espagne est morte de rire.
Écoute, quand tu dis que dans les réunions, étant donné que lorsque tu applaudis, ça peut choquer des gens, le son de l'applaudissement, ça peut les traumatiser, qu'on fait ça maintenant au lieu d'applaudir, tu dis calvaire, là. À un moment donné, là.
Alors, tu vois, Richard, j'ai souvent dit que il y a au Québec, il y a à peine 15% de gens qui votent pour Québec solidaire, mais nous vivons dans une espèce de mentalité Québec solidaire. C'est-à-dire que tout ce côté gnagnan, guimauve, faut être sensible, tout le monde est opprimé, ben, il y a beaucoup de ça qui percole. Et bon, enfin, écoute.
Écoute, la prochaine génération, là, les enfants qui vont grandir, là, eux autres, ça va être des jackasses. Tu comprends-tu, là? Ils vont tellement être écœurés, là, de cette surprotection-là et des parents hélicoptères qui vont... Ils vont faire du bungee, là, écoute, à partir du quatrième étage de leur balcon.
Peut-être, mais en même temps, hier, je jasais avec Isabelle Maréchal, qui s'est substituée à toi, et elle m'a amené sur cette initiation à l'Université de Sherbrooke qui a totalement dérapé, t'sais, les étudiants en biologie. Et je reçois quelques courriels de gens qui me rapportent effectivement des initiations franchement dégradante, violente et tout. Alors, il y a là quelque chose de paradoxal. Il y a toute une espèce de discours de calinours, mais tu vois aussi chez des jeunes dans la vingtaine, dans des campus, là, on parle ici d'étudiants en biologie, t'sais, pas de bombes, là, de gens qui se veulent de futurs scientifiques, et vraiment, t'as des trucs, t'sais, hyper violents, humiliants, dégradants, comme s'il y avait une espèce de violence ou de frustration tapis en eux.
Exactement.
Qui ne demande qu'à se manifester. Enfin.
Écoute, je parlais plus tôt dans l'émission en ouverture d'un livre qui s'appelle The Anxious Generation, la génération anxieuse de Jonathan Haidt. Et lui, il dit, il dit, on surprotège les enfants dans la réalité et on les sous-protège dans le virtuel. Quand ils vont dans le virtuel, on ne sait pas ce qu'ils font, ils font n'importe quoi, mais on les surprotège dans la réalité, alors que ça devrait être l'inverse. Les protéger dans le virtuel et leur sacrer à paix dans le vrai monde.
Ben oui, c'est le même Jonathan Haidt qui, je pense que c'est dans The Atlantic, on me corrigera si je me trompe, qui, il y a pas tellement longtemps, avait publié un article dans lequel il disait « Arrêtons de blâmer Internet en général, parce que Internet date, disons, du tournant des années 2000. » Lui dit « C'est vers 2012 que j'ai vu l'explosion. » L'explosion du nombre de jeunes anxieux, angoissés, qui se mettent à consulter. Lui, avec des statistiques, il a vu que la courbe, boum, grimpe vers l'Everest en 2012. Et c'est en 2012, précisément, que Facebook embarque. Et ben que là, évidemment, c'est la comparaison avec les autres.
Il y a un lien direct, là.
Il y a un lien direct qui est établi entre ces espèces de mises en scène fausses et le monde qui t'envoie des messages « t'es trop gros, t'es trop grosse, t'es trop laite », tu sais. Et ça donne ce que ça donne. Enfin.
Écoute, on pourrait en parler pendant des heures Joseph. L'effondrement de la CAQ, quand c'est rendu que les sondages disent que tu vas être quatrième, comment tu peux remonter la côte?
Ben, c'est ça l'affaire. Écoute, pour aller vite, la CAQ a été élue avec 41% du vote. Elle est aujourd'hui à 22. Tous les autres partis fondent sur place, sauf le PQ, qui est monté à 34 pour une raison toute simple, les vases communicants. Les souverainistes qui avaient été parqués leur vote à la CAQ sont retournés à la maison ancestrale. Dans ce contexte-là, on pourrait penser que la CAQ a tout intérêt pour stopper l'hémorragie du côté nationaliste, à redevenir nationaliste, à durcir le ton vis-à-vis Ottawa. Or, un sondage léger de février, qui est un petit peu passé sous silence, nous apprenait quelque chose de très intéressant. Écoute bien, en juin 2022, quand la CAQ était encore très assez forte, donc il y a deux ans, quand on demandait à ce 44% de caquistes pour qui vous voteriez au fédéral, ben à ce moment-là, il y a donc deux ans, ils étaient 45% à dire « Moi, caquiste, j'appuierais le Bloc. » 33% appuieraient Trudeau et 12% appuieraient Poilievre. Donc, de ce point de vue, effectivement, c'est une vraie coalition. Aujourd'hui, tu prends les 22% de caquistes qui restent et tu leur demandes « S'il y avait une élection fédérale, pour qui vous voteriez? » Ben, tiens-toi bien, Richard. Parmi ceux qui, aujourd'hui, se disent caquistes, ils sont 42% à dire « je voterai pour Trudeau », ils sont maintenant 31% à appuyer le Bloc et 20% à soutenir les conservateurs. Autrement dit, chez ceux qui aujourd'hui se disent encore caquistes, le contingent le plus important, le Bloc numéro 1, c'est du monde qui soutient Trudeau.
Donc vois, c'est un parti de plus en plus rouge, de moins en moins bleu, parce que les bleus sont revenus à la maison, sont allés au PQ. C'est ça qu'on dit.
Donc, exactement. La CAQ, elle est complètement écartelée. C'est-à-dire que pour contrer le PQ, qui est sa principale menace, la CAQ devrait durcir le ton vis-à-vis Ottawa. Mais les partisans qui te restent, ils aiment Trudeau, ils aiment Ottawa, ils veulent pas de chicane avec lui. Donc, c'est d'où mon image dans ma chronique de ce matin.
Ben oui.
Tu sais, la fameuse épreuve de Louis Cyr qui est écartelée par des chevaux qui tirent des deux côtés.
Ben
alors,
oui.
Tu vois, à ce moment-là, on pourrait même pousser les raisonnements plus loin. Si ceux qui restent à la CAQ sont d'abord et avant tout des fédéralistes, ben peut-être que le choix tactique et stratégique à faire pour la CAQ, c'est de devenir le Parti libéral du Québec 2.0. Devenir le PLQ 2.0 pour empêcher la renaissance du PLQ en le cantonnant dans son rôle de, essentiellement, parti anglo-montréalais. En tout cas, bref...
Donc, mais ce qui veut dire que la troisième voie, c'est l'écartèlement. La troisième voie, c'est Louis Cyr qui est écarté en deux chevaux. D'ailleurs, ils ont mis une photo du film de Louis Cyr, j'imagine, là, qui est très drôle.
La troisième voie n'était possible, n'était envisageable que du temps d'ADQ. C'est-à-dire que tant que tu prenais pas le pouvoir, tu pouvais toujours fantasmer sur la troisième voie. À partir du moment où tu prends le pouvoir, là, tu dois livrer la marchandise. Concrètement, c'est quoi la troisième voie? Et on voit qu'il n'y en a pas de troisième voie. Essentiellement, la CAQ, vers 2011-2012, quand elle s'est créée, la CAQ, elle a vu, tout simplement, un espace dans le marché politique québécois et elle a créé une offre pour répondre à cette demande-là. Mais c'était un one-shot deal. Où est l'avenir pour la coalition à venir? Je me le demande.
Tout à fait. Non, ça va être très dur. Est-ce que tu penses que actuellement François Legault est en train de réfléchir à son avenir? C'est ce que croient certains chroniqueurs.
C'est clair qu'il y réfléchit. Évidemment, il n'a pas intérêt à dire ça. Parce que s'il le disait publiquement, le grenouillage pour lui succéder commencerait immédiatement. Un chef, ça ne le dit pas à voix haute que ça réfléchit. Ça annonce la décision le jour où elle est prise. Mais, écoute, il avait une ambition, créer un parti qui le mènerait au pouvoir. Il a réussi.
Donc,
il a atteint le rêve de sa vie. Qu'est-ce que tu veux qu'il accomplisse?
Non, tu sais, quand on dit, là, on est tanné des chicanes entre les fédéralistes et les souverainistes, c'est ça le Québec, parce que là, il va y avoir une fusion de Parti libéral puis la CAQ, si jamais il s'en va, et on va se retrouver avec le PQ et le Parti libéral, fédéraliste, souverainiste. C'est ça.
Mais ça, c'est notre destin. Mais ça, c'est tellement québécois. Quand on ramène ça à des chicanes, on ramène ça à des conflits de personnalité. Sous-entendu, s'il y avait du monde de bonne volonté, ça irait donc mieux. Non, c'est pas une affaire de personnalité, c'est une affaire de régime, c'est une affaire de système. Ici, il y a un État dans un État, ou si tu veux, une nation dans un État qui refuse de la reconnaître. C'est un problème, pour reprendre moi la mode, c'est un problème
structurel ou systémique.
Ouais. Ben oui. Dans le temps, on disait, avec Harper, ça ira mieux. Maintenant, j'entends du monde qui dit, avec Poilievre, ça sera mieux. Ben voyons donc, quelle illusion. Ça aussi, c'est une illusion. C'est un problème de système.
Il faut te lire de Louis Cyr à François Legault le test de l'écartèlement aujourd'hui dans le journal. Merci, Joseph.
Salut. Merci, salut. Bye.